et c'est Nadia Belaoui qui est présidente de la conférence permanente des coordinations associatives qui va se prêter à cet exercice en premier.
Oui, merci. Merci à vous. Alors, après Michel Dinet, il est difficile de ne pas commencer parce qu'il y a d'enthousiasmant dans cette période difficile. Et au fond, ça tombait bien puisque c'est vraiment notre état d'esprit. Ce qu'il y a d'enthousiasmant dans cette dynamique dont on a bien compris qu'elle ne s'arrêtait pas au projet de loi et à la loi sur l'économie sociale et solidaire, c'est justement cette co-construction d'un nouvel acte de l'économie sociale et solidaire, voire de l'économie de l'après-crise, si on reprend un certain nombre de propos qui ont été tenus dans la séance liminaire, une co-construction avec les acteurs au plus près des territoires. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que cette co-construction, elle ne se décrète pas, elle s'organise, elle ne va même pas de soi du fait de notre proximité culturelle. On l'a dit, beaucoup d'élus territoriaux ont fait leur classe, en tout cas ça a été la formule du représentant de l'AMF, dans des associations, dans des coopératives et dans des mutuelles. C'était davantage vrai que ça n'est vrai aujourd'hui, et ça ne suffit pas à faire des vrais lieux de coopération, de co-construction, de concertation, voire de conception de nouveaux modèles. Et on le dit très simplement, nous sommes convaincus qu'au sein de l'économie sociale et solidaire, le nouveau modèle associatif ou le modèle associatif français du 21e siècle, il faut qu'on le construise ensemble en trouvant les modalités de coopération très pratiques, mais aussi en trouvant les modalités de réflexion, de mise en débat d'un certain nombre de sujets. Je cite rapidement des sujets cruciaux qui ont été évoqués dans la matinée. Qu'est-ce qui est une activité économique et non économique? Évidemment, ça a une résonance particulière avec le droit communautaire, mais c'est pour les associations quelque chose de décisif. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre les associations employeuses qui seraient dans l'économie sociale et solidaire et celles qui ne le sont pas. Je veux dire, pas seulement dans l'émergence, la spécificité du modèle associatif, c'est la mixité des ressources, certes, mais aussi des acteurs. Enfin, et on a effectivement un énorme chantier en commun de rendre visible ce modèle socio-économique très particulier, hybride, mixte. Et la dimension de coûts évités est évidemment essentielle, et pas seulement des coûts indirects évités, mais je veux dire, à combien on estime la défiance vis-à-vis des institutions, c'est un coût majeur pour la société quand des gamins dans un quartier qui brûle brûlent un centre social. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dont on a du mal à rendre compte. Il faut qu'on arrive à trouver cette manière, ces indicateurs d'utilité sociale et au-delà d'utilité civique et démocratique des associations et d'une façon différente, pas nouvelle d'ailleurs, de faire de l'économie qui n'est pas uniquement de l'économie de réparation. Enfin bref, on a un gros sujet là autour de qu'est-ce qu'on attend comme fonction économique des associations au sein de l'économie sociale et solidaire. Deuxième sujet à discuter, à mettre en débat, c'est qu'on vit quand même beaucoup avec l'idée que la mise en concurrence est la modalité d'allocation des ressources la plus pertinente. Or, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un renchérissement des coûts qui peut tout à fait aller avec une mise en concurrence. Donc, il y a évidemment autant de pratiques des marchés publics que de marchés publics lui-même, mais on peut aussi attendre de la loi et de la discussion que les clauses sociales et environnementales soient beaucoup plus pratiquées, développées au niveau français comme au niveau européen. Alors de ce point de vue-là, du point de vue des relations contractuelles, je le dis aussi simplement que ça a été dit par un certain nombre de gens dans la salle, le monde associatif ne comprendrait pas qu'on n'aille pas jusqu'au bout, pas comme Jérôme Sadi a pu le dire, qu'on s'arrête au milieu du guet, qu'on aille jusqu'au bout de la question de la subvention et de la sécurisation des collectivités qui allouent des subventions, non seulement au regard du droit français, mais également au regard du droit communautaire. Ça, pour nous, c'est la condition sine qua non de l'utilité de cette loi. En dessous de ça, cette loi n'est pas suffisamment utile pour le secteur associatif, donc j'espère qu'on va trouver, y compris les modalités juridiques, pour que, à travers des décrets d'application, on sécurise les subventions du point de vue communautaire, du point de vue notamment des décisions sur les aides Sur les aides d'État. Troisième élément qui a été beaucoup discuté, si on attend des associations qu'elles innovent socialement, qu'elles soient créatives, alors il faut mettre en place des fonds territoriaux, effectivement, de développement de l'innovation sociale. Et il faut penser le financement de la recherche et du développement. On a beaucoup parlé, c'était très pertinent, de la recherche, et on est d'ailleurs heureux que la loi sur l'enseignement supérieur ait ajouté dans les missions des établissements d'enseignement supérieur le fait qu'elles aident la recherche au profit des associations. C'est une amélioration du Sénat qui est tout à fait utile, mais ce n'est pas encore complètement approprié par les collectivités territoriales. On a besoin de mettre des excédents de gestion de pouvoir allouer des excédents de gestion à du financement de la recherche et du développement, mais aussi à de l'adhésion, à la participation à des lieux d'échange de pratiques et de réflexion pour être effectivement plus créatif. Je termine en disant que nous sommes conscients à la CPCA, qui, vous le savez, est un peu la tête de réseau des têtes de réseau, que le fédéralisme vous a en partie déçu, hein, que les fédérations associatives ont déçu un certain nombre de responsables politiques et territoriaux. Nous en assumons, nous devons assumer l'essentiel de la responsabilité de ce que sont aujourd'hui les fédérations, mais cette responsabilité est partagée parce que d'une part, il y a aussi quand même une peur des contre-pouvoirs qui s'est exprimée et qui a eu des effets, mais il y a aussi, au fond, une croyance collective dans les vertus de la professionnalisation, du mimétisme avec le privé capitalistique. Nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que les fédérations d'associations, ont décidé, pour beaucoup d'entre elles, de se repositionner comme fédérateurs, justement, médiateurs, alors avec tous les mots que vous voulez choisir pour rendre compte de cette réalité, et ne pas simplement intervenir directement sur des territoires comme on a pu quand même pour certains le faire pendant des années parce que c'était plus facile aussi pour nous d'intervenir comme des entreprises de l'économie sociale intervenant directement sur des territoires plutôt que de fédérer des énergies qui sont plus justement plus moins alors. Et ce que je veux juste dire, c'est que nous sommes condamnés d'une certaine façon à réussir à la fois la coopération entre le secteur associatif et les pouvoirs publics, et à renforcer, pour rendre possible la coopération avec d'autres, avec les collectivités territoriales, avec les entreprises capitalistiques, avec le monde de la recherche, etc., il nous faut structurer aussi ce secteur associatif de manière autonome, parce que, et je termine là, ce qu'on recherchait, ce qu'on attribuait aux associations, qui est justement le fait d'avoir la pêche dans un monde de gens complètement pessimistes, ça n'est pas possible quand on est des dirigeants associatifs totalement isolés, émiettés, qui peinons dans nos affaires de gestion. Mais ça a été dit aussi, il y a un certain nombre d'études, dont des études menées par la CPCA, qui montrent que les associations sont simplement plus durables, plus efficaces comme employeurs, comme contributrices à l'intérêt général quand elles sont fédérées. Et de ce point de vue-là, nous avons là aussi, dans la foulée de ce que Madame de Moustier porte depuis longtemps, effectivement à décliner cela en des possibilités nouvelles de groupement de moyens, d'optimisation des ressources. Mais nous n'y arriveront pas en ne prenant pas en compte les uns et les autres l'histoire et de l'émiettement associatif, en effet, vous l'avez dit. Et cet effort, l'effort de dialogue avec nous, passe par un effort de soutien à la structuration autonome du secteur associatif pour qu'au-delà de son poids, il gagne de l'influence.